Eh bien, ce soir, nous accueillons les auteurs d'un magnifique ouvrage que vous avez pu voir à l'entrée, donc « Ars Sacra », qui est un ouvrage qui recouvre l'immense production artistique d'art sacré sur l'art chrétien occidental, mais avec ses ramifications jusqu'en Amérique, puisqu'on a même des...
Amérique du Sud.
Amérique du Sud. Bon, on est habitué, on connaît un petit peu les merveilleux couvents mexicains, mais moi, je ne connaissais pas cette très jolie église de Santa Fe en Argentine, qui est très modeste, dans la Pampa, une église de Pampa. Et donc, c'est un ouvrage absolument remarquable où on va trouver beaucoup de monuments connus, d'œuvres très célèbres, mais photographié magnifiquement par Achim Bernos, qui est ici, et donc ces œuvres sont présentées à la fois dans des vues d'ensemble qui nous permettent de les identifier aisément, et puis avec des détails absolument surprenants et absolument magnifiques qui nous font redécouvrir ces objets, ces images. Bon, moi-même, depuis très longtemps, je regarde les livres d'art et j'en suis même un peu lassé. C'est-à-dire que j'ai retrouvé cet émerveillement en feuilletant l'ouvrage. Feuilletant n'est pas adapté parce que c'est un énorme ouvrage. Donc, on hésite à utiliser ce terme. Mais en tournant les pages de cet ouvrage, j'ai retrouvé l'émerveillement que je pouvais avoir quand j'étais tout jeune et que les premiers grands livre de Skira nous présentait ces beaux monuments. Et là, bon, c'est à une échelle extraordinaire. Alors, pour présenter cet ouvrage, donc Rolf Thomann, qui en est l'éditeur, hein, le concepteur au départ, c'est lui qui est à l'origine, il va nous parler de cette expérience extraordinaire qu'il a menée, parce que je crois que même dans son œuvre, qui est longue, il a beaucoup publié de livres, de très très beaux livres, le dernier en date est Ordre des monastères, que vous pouvez trouver ici à la librairie, qui évoque aussi la splendeur de l'art chrétien. C'est, je crois, quand même le livre le plus important que vous avez fait.
Celui
qui est un livre sur lequel vous avez énormément travaillé et qui est nourri de ces expériences multiples qu'il a depuis de longues années dans l'édition. Et Achim Bernos, bien sûr, on le connaît. Enfin, c'est un photographe qui a illustré tant d'ouvrages magnifiques aussi sur les arts, pas seulement chrétiens, qu'il est inutile de le présenter plus longuement. Donc je vais d'abord laisser la parole à Rolf, et puis ensuite vous pourrez poser des questions, on engagera une petite conversation.
D'accord, merci pour l'introduction. Tout d'abord, il faut que je me excuse pour mon pauvre français. Et pour cette raison, j'ai préparé un texte et je vais le lire pour présenter quelques explications accompagnées par des illustrations de Achim. Il faut dire merci à Achim. Il a fait une longue distance de venir ici ce soir. Il vient de Cologne. Et moi, je trouve que c'est un grand engagement, et c'est notre première démonstration PowerPoint. J'ai pas d'expérience avec ça et on va essayer. Alors, j'ai écrit ce texte et j'ai laissé corriger le texte par ma fille. Elle a éliminé les fautes et je suis heureux et il faut se profiter un peu. Alors, je vais commencer. Bon, nous deux, Achim et moi, nous sommes heureux de vous présenter Ars Sacra. Cet ouvrage est sorti début septembre 2010 en 6 langues, édité chez Ullmann à Potsdam, à proximité de Berlin. Voici la maison édition à Potsdam. Et après, notre livre Ars Sacra. Ars Sacra est un panorama complet de l'architecture et l'art chrétien depuis les débuts du christianisme à Rome autour de 300 après Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Quelques mots sur nous et notre travail sur Asakra. Depuis 20 ans, moi, Rev Thomas développe et accompagne des livres sur les thèmes de l'art et l'histoire des civilisations. Durant ces années, 32 livres ont ainsi vu le jour. Par la majorité des livres, j'ai travaillé avec le photographe Achim Bettnortz et nous sommes depuis longtemps de bons copains, vous pouvez imaginer. Achim Bettnortz est connu internationalement pour ses excellentes photographies de cathédrales, églises, cloîtres et d'art religieux. Voici quelques ouvrages qui ont été publiés durant ces 20 dernières années. Peut-être vous connaissez quelques livres. C'est pas de Ullmann, publié par Ullmann, Asakra et Ordre et Monastère. Et les autres par Könemann, avant c'était Taschen. Alors les éditeurs connus. Bon. Même si beaucoup de ces livres ont eu du succès, il faut dire que Asakra est notre chef d'œuvre, la somme de nos 20 ans d'activité autour de l'art sacré et de l'architecture. Le travail sur Asakra a duré plus de 5 ans. Achim Bettnortz a entrepris près de 100 voyages en parcourant au total 150 000 km pour réaliser les photographies. Plus de 10 000 clichés ont ainsi été pris et environ 1 000 d'entre eux ont été choisis pour Asakra. Les 200 photos restantes proviennent de musées et d'archives. 8 auteurs ont travaillé sur l'ouvrage, tous historiens d'art et connaisseurs renommés du thème traité. Chacun entre eux s'est occupé du texte pour une époque. Je connais personnellement tous les auteurs. Nous avons beaucoup discuté du livre et élaboré ensemble chaque chapitre. Quelques chiffres. Asakra fait presque 44 cm de haut, 29 cm de large et pèse à peu près 11 kg. L'ouvrage comporte 800 pages et à peu près 1200 illustrations. Pourquoi un si gros livre sur l'art chrétien et l'architecture? Un regard historique sur l'époque de l'an 300 à nos jours révèle l'art chrétien comme étant la majeure contribution européenne à l'art du monde. La résilience chrétienne constitue la base culturelle de l'Europe et ses images forment la plus importante source d'inspiration de l'art occidental qui, jusqu'à nos jours, n'est pas tari. Beaucoup d'édifices sacrés et œuvres d'art chrétienne sont d'une beauté exceptionnelle et méritent, même sans plus grande justification, d'être montrés dans cette grandeur et magnificence. Voici quelques vues intérieures et extérieures d'églises et cathédrales. Ça, c'est Sainte Sabine à Rome, Hagia Sophia, Istanbul, Sainte Madeleine à Vézelay, la cathédrale de Chartres, cathédrale Lincoln en Angleterre, Sant'Andrea de Mantua, Italie, aussi Italie, Santa Chiara de Bra, Église Saint-Esprit de Javor, Pologne, la Sagrada Familia à Barcelone, et l'église de Jésus-Christ à Bochum, Allemagne. Vous voyez, Asakra venue d'Allemagne est résolument européenne. Ensuite, quelques-unes des remarquables œuvres d'art religieuse qui ornent ou ornaient les églises et étaient utilisées à des fins liturgiques. Chapiteau byzantine, ou qu'est-ce qu'on dit
Byzantin,
merci. Icône russe, enluminure du haut Moyen-Âge, orfèvrerie du 9e et 10e siècle, œuvre de bronze fin 10e, début 11e siècle. Chapiteau roman, peinture murale gothique et Michel-Ange à Rome dans la chapelle Sixtine. Vous connaissez. Et à la fin, le retable de Isenheim à Colmar, musée Unterlinden de Grunewald. Le Christ souverain et mourant et sa résurrection. Cette confrontation est pour moi la plus impressionnante représentation du message chrétien que je connaisse. Œuvre du 19e siècle à Vienne, peintre allemand. Nous sommes déjà au beau exemple de vitraux modernes du 20e siècle. Vitraux de Marc Chagall à la cathédrale de Metz. Vitraux de Georges Meistermann dans l'église Saint-Gérion à Cologne. Et à droite, Alfred Manessier en Abbeville. Y a-t-il encore des doutes sur la beauté de l'art et de l'architecture chrétienne? Elle est ainsi la raison principale de cet ouvrage. Comment est constitué l'ouvrage? Un sacre traite de façon chronologique ce vaste thème. Le livre est ordonné par époque. Antiquité tardive, Byzance, Haut Moyen-Âge, art roman, gothique, Renaissance et maniérisme, baroque rococo, classicisme, romantisme et historisme, et art nouveau, expressionnisme, art moderne et contemporain. C'est bon. Reste là. Représentation particulière. Nous vous montrons maintenant quelques œuvres sur lesquelles la façon de photographier et le type de présentation qui en découle sont particulièrement démonstratifs. Lors de la préparation du livre, nous avons pensé qu'il fallait absolument profiter de ce grand format pour la représentation de détails particuliers. Ainsi, nous avons prié le photographe de s'approcher en 2 ou 3 zooms, toujours plus près de l'objet. Cette méthode du zoom permet à l'observateur un rapprochement de l'objet qui, dans la plupart des cas, aurait été impossible sur place. Premier exemple, l'église Saint-Vital de Ravenne et ses ornements mosaïques du 6e siècle. Les fondations extérieures forment un octogone. Nous entrons dans l'église et regardons dans le chœur. Dans le chœur, voici les mosaïques qui ont été représentées en grand format. En ce qui concerne le détail des mosaïques du chœur qui vont suivre, je tiens à attirer votre attention sur la représentation à haute gauche. Elle est particulièrement discutée dans le texte de cette page double. Et puisque cette représentation est particulièrement discutée, un détail de ce détail est encore représenté en très grand. Sur cette photo, chaque petit morceau de mosaïque peut être discerné. Les visages de l'empereur Justinien et de ses accompagnateurs se présentent dans une individualité impressionnante. Voici D'autres exemples illustrant cette méthode de zoom qui dénote les représentations d'art sacre. Orfèvrier, comment il voulait dire orfèvrier.
Orfèvrerie.
Orfèvrerie. J'ai toujours les difficultés avec ces mots. Après, le retable de Ghent de frère d'Eyck, van Eyck. L'église am Steinhof de Otto Wagner à Vienne. La plus importante église de l'art nouveau avec la Sagrada Familia à Barcelone. Sur place, le photographe est parti à l'exploration et a découvert des détails qui n'auraient pu être vus à l'œil nu. Sur la peinture de plafond de l'église allemande des Vis, les peintures et sculptures s'entremêlent. Le petit ange est majoritairement peint. Seul à sa jambe gauche s'érige de la surface, sculptée dans le stuc de genou jusqu'à la pointe du pied. Un autre exemple. Les sculptures romanes de portail sont aujourd'hui normalement sans aucune trace de couleur, alors que l'observation des détails du tympan de conque montre bien qu'autrefois il était coloré. Pour éviter les zones d'ombre, Achim Bettnorz photographie les sculptures sans lumière directe. Ceci joue un grand rôle pour la reconnaissance des objets. À la fin de cette démonstration du principe zoom, nous aimerions encore vous montrer l'un des deux retables à voler qui sont présentés dans ce livre avec des pages dépliables. Ça, on ne peut pas voir par cette démonstration ici. C'est le retable de la Sainte Famille du peintre Lucas Cranach. Alors, dans le livre, on peut déplier les pages. Achim Bettnorz a effectué cette prise de vue dans le musée Städel de Francfort. L'autorisation de photographier n'a pas été facile à obtenir. Les musées préfèrent vendre les photos de leurs archives, mais la qualité de ceux-ci n'est pas suffisante pour la qualité souhaitée pour art sacre. Le travail que représente l'obtention de toutes les autorisations de photographier est à peine imaginable. Mais nous savons aujourd'hui que cet effort a été indispensable. Représentation du principe de la page double. Dans ce discours, je ne me suis pas attardé sur les commentaires des illustrations d'art sacre. Bien sûr, dans le livre, les descriptions sont beaucoup plus détaillées, mais elles ne sont en aucune façon trop longues. Afin de mieux présenter l'image et le texte sur une même page double. Ainsi, les textes peuvent se lire comme des extensions de légendes. En plus, la clarté est maintenue par de nombreux titres. Regardez tranquillement cette page double. Les sujets des textes sont toujours facilement discernables grâce aux titres et légendes des représentations. Dans le livre, les quatre doubles pages que vous venez de voir se suivent exactement dans le même ordre. Encore une fois, vous pouvez voir avec quelle générosité nous avons pris en compte les détails. Nous étions conscientes que la taille et le poids du livre peuvent engendrer des difficultés dans le maniement de ce livre. Par ce rapprochement du texte et de l'image, nous avons voulu compenser cet désavantage et éviter trop de feuilletage. Pour finir, encore une série de célèbres sculptures de Michel-Ange. Le texte de chaque page double concerne aussi ici l'illustration de la page en question ou du détail qui suit. Toutes ces représentations sont des nouvelles prises de vue d'Achim Bettnorz. Vous avez pu vous en assurer, la qualité des photos est exceptionnelle. Heureusement que l'on peut dire la même chose de l'impression du livre et de toute sa fabrication. Merci pour votre attention.
Bon, merci beaucoup, Rolf. Je voudrais bon, témoigner, moi aussi, de ma manière de percevoir ce livre. Et effectivement, bon, parmi tous les livres d'art que l'on connaît, en tant qu'historien de l'art, j'en ai manié beaucoup. Alors, ce sont très souvent des ouvrages spécialisés sur une période. Ici, là, le premier, le Paris, présentait un art sacré des premiers siècles du christianisme jusqu'à nos jours, c'était effectivement un pari lourd à tenir. Mais surtout, ce que j'ai apprécié, au-delà de l'émerveillement dans la contemplation des photos, c'est effectivement le travail d'édition réellement exceptionnel que vous venez de souligner, c'est-à-dire cette maquette hein, qui permet de pallier les inconvénients que pourrait apporter un ouvrage de cette dimension par la proximité du texte et de l'image. Ça, c'est absolument remarquable. On n'a pas à aller chercher l'image dans la page, au verso de la page. Donc ça, c'est un travail. Il y a... on en a un petit peu parlé avant, parce qu'on avait parlé de la manière de réaliser ce travail. Pas sous cet angle-là, mais lorsque vous me disiez que vous n'aimez pas l'infographie, que vous n'êtes pas, ce n'est pas vous qui allez faire les maquettes avec rester des journées entières, le nez collé sur ces écrans infernaux, c'est pas du tout ce qui vous intéresse. Oui. Et vous travaillez au crayon, à la plume, vous faites des croquis comme ça. Il y a au-delà de la créativité dont ont fait preuve les artistes, il y a votre propre créativité qui est vraiment un métier en soi, un métier d'art dans la composition, dans la maquette. Et ça, je crois que ce n'est pas un ouvrage d'historien de l'art. Vous êtes historien de l'art, vous connaissez non. Fort bien le sujet, en fait, tous ces sujets. Mais ce n'est pas un ouvrage d'historien de l'art, c'est un travail d'édition qui place l'édition au niveau des beaux-arts. Mmh. Là, voilà, je crois que ça, c'est quand même particulièrement, oui. Particulièrement intéressant. Et on le sent intuitivement en ouvrant l'ouvrage et en le maniant. Il y a une aisance, qui est une adaptation. Bon, ça, c'est le métier. Et les artistes d'art chrétien, je vais être un petit peu réactionnaire, mais enfin, tous ces artistes qui ont produit les œuvres que nous avons là, ce sont des artistes qui sont des artistes dans le sens médiéval du terme, qui sont des artisans qui possèdent admirablement un savoir-faire, un métier, ce qui ne gomme pas du tout la créativité, évidemment, qui au contraire va lui permettre de s'exprimer d'une manière absolument, absolument magnifique. Alors ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui m'a frappé aussi, et ça vient de cet effet de zoom que vous nous avez très bien décrit, là aussi, ça nous met en présence... Bon, vous avez montré beaucoup de photos d'architecture. C'est vrai que l'ouvrage est, de ce point de vue, remarquable. Mais il y a aussi les images qui présentent les représentations humaines. Parce que c'est aussi sans doute le propre du christianisme d'être la religion qui a le plus valorisé le corps humain dans la mesure où, bon, l'incarnation, un Dieu qui se fait homme, donc ça met le corps humain à une place qu'il n'a dans aucune autre religion. Et là aussi, intuitivement, en ouvrant votre ouvrage, on tombe sur des images, sur des visages. Là, vous avez montré le visage de la Sibylle de Cume, de la Sainte-Chapelle, mais il y a des pages absolument époustouflantes de ce point de vue, des œuvres, des sculptures assez froides, par ailleurs, ces sculptures de marbre blanc, mais photographiées, justement, avec un modelé. Et là, c'est le photographe, parce que rien de plus difficile à photographier qu'un marbre blanc un peu brillant. Et donc, on a... Bon, j'avais noté quelques-unes de ces images. Oui, dans la chapelle de Padoue, de Saint-Antoine de Padoue, la grande sculpture de Tullio Lombardo, donc, qui est absolument magnifique. Et là, bon, c'est effectivement des choses que l'on ne voit jamais. Je veux dire, il y a un travail qui associe la qualité de la prise de vue, sans doute un peu de travail après sur l'image, mais vous le dites à la fin de l'ouvrage, ce sont des images très peu retouchées, n'est-ce pas ? Les images sont telles qu'elles sont, sortent de l'appareil, pratiquement. Vous dites simplement, on est, pour la Sagrada Familia, pour cette église de Gaudi, on a gommé les échafaudages. C'est la seule audace que vous soyez permise de ce point de vue. Oui. Et le reste, c'est dans la prise de vue qui est magnifique. Donc, je crois que... C'est cet aspect aussi du livre qu'il faut voir. C'est pas simplement une collection d'images qui peut être utile à un historien de l'art ou qui peut donc soutenir un discours de critique d'histoire de l'art. C'est une œuvre d'art en soi dans laquelle il y a une créativité éditoriale, encore une fois. Alors après, il a fallu trouver effectivement l'éditeur commercial qui joue le jeu. Ben, là aussi, c'est oui. votre alors, métier qui est.
Il faut dire merci à Herbert Ullmann, oui. qui a été assez engagé pour faire réaliser cet ouvrage. J'ai commencé de proposer cet ouvrage il y a 6 ans et on a attendu en 3 ans pour avoir un contrat pour continuer notre travail. On a commencé. On a eu beaucoup de l'espoir que l'éditeur va continuer et va faire ce livre. Mais c'était notre risque de commencer. Et après 2 ans, j'ai présenté des photos comme ça. Et il était absolument convaincu que de faire cet ouvrage avec nous. Alors, de temps en temps, c'est vachement difficile... de discuter avec les maisons d'édition, avec les éditeurs, parce que c'est un grand risque de finance, de nous payer, et c'était pas clair que ce livre c'est un grand succès. Alors on peut pas le dire, mais il y a des signes que cet livre va être accepté par les gens. Il faut attendre encore quelques semaines, mais cet ouvrage, je suis étonné de réaliser que aussi les professionnels sont impressionnés. Je vous raconte une petite histoire. Il y a un magazine allemand, Le Stern, l'étoile, très connu, 1 million par semaine. Et cette directeur d'art, quand je suis venu à Hambourg, il a dit « Oh, qu'est-ce que vous faites là ? Oh, vous pouvez imaginer combien de photos je regarde chaque semaine. Ce n'est pas intéressant pour nous. Quand même, peut-être je peux faire quelque chose pour vous, on verra. » Et après, quand notre livre était fait, on a envoyé ce livre à cet art directeur. Il a répondu par email, waouh! C'était le seul mot qu'est-ce qu'il a dit. Et en ce cas, il faut faire quelque chose pour ce livre parce que je suis absolument impressionné. Alors, c'était pas mal. Et c'était une réaction que je n'ai pas eue avec les autres livres, il faut le dire.